Rencontre avec Costa Gavras et Le Couperet, partie 2. Le personnage de Davert se bat pour sa famille. Du moins, c'est ce qu'il prétend, pour en conserver à la fois l'unité et la survie. Cette famille semble idéale, heureuse, volontaire et unie. Davert a une gentille femme, accompagnée de deux gentils et beaux enfants. On remarque pourtant qu'au début du film, et tant que Davert n'a pas totalement résolu son problème, avoir le travail qualifié qu'il mérite, le personnage est montré dans une solitude extrême, bien qu'entouré. Au début du film, quand le personnage prend sa décision, alors que sa famille regarde la télévision, il est tourné vers nous et réfléchit, il décide de tuer. Il faut qu'il prenne la place de l'homme vers lequel sa famille se tourne et admire, cet autre lui-même qui parle exactement comme lui, mais qui a du travail, mâche fer.
Une idée vertigineuse m'est venue.
De la même façon, après son deuxième meurtre, il regarde seul la télévision qui en rend compte, tandis que sa femme et ses enfants échangent, se disputent, sans le voir. Davert va se remettre à exister pour sa famille à partir du moment où il va devenir un criminel et en plus couvrir les méfaits de son fils sans jamais lui reprocher l'immoralité de ses actes. Les relations entre les êtres et les choses sont corrompues et viciées dans Le Couperet. La scène où Davert dissout le CV compromettant sous la douche est à la fois angoissante et invraisemblable. Je fais du suspense et j'essaie de jouer avec les spectateurs comme le chat avec la souris. Nos amis les vraisemblants, nos amis les logiciens, a déclaré Hitchcock à Truffaut à propos de la mort aux trousses. En réalité, dans les films d'Hitchcock, rien n'est gratuit, et ici non plus. Ainsi, l'image du papier qui disparaît renvoie à l'aveuglement de la femme de Davert qui ne veut pas voir ce qui est sous ses yeux, le crime qui vient d'être commis. L'image renvoie aussi à la fameuse scène de la douche dans Psychose, où l'eau devient l'inverse de la vie et de la pureté. On pourra comparer aussi ce plan à ceux où Davert jette à l'eau les CD volés par son fils, puis un pistolet et qu'il est traité de pollueur par un jeune homme dans une curieuse barque, une table renversée. Davert, pour reprendre sa place, détruit la planète, alors qu'il sait pertinemment que la seule solution innovante concernant le papier serait de vraiment s'occuper des déchets. C'est d'ailleurs un de ses concurrents, devenu serveur dans un bar, qui le lui rappelle. Ce serveur, il le tuera salement, en le renversant, puis en lui roulant dessus, parce qu'il représente sa mauvaise conscience et l'avenir. C'est le seul homme qu'il croise qui pense solidarité et écologie et qui ne pense pas sa nouvelle fonction de serveur comme un déclassement ou du moins une chute. Les autres, le garagiste, qu'il n'a même pas besoin de corrompre, et le concurrent, devenu vendeur de costumes, sont pour l'un prêts à toutes les violences, pour l'autre, totalement perdu et déclassé, au point qu'il n'aura même pas besoin de le tuer. Le pauvre homme se suicidera et endossera pour la société la responsabilité des crimes de Davert. Pourtant, Davert ne porte jamais de masque, ne se travestit pas, ne se cache pas, ou presque.
Et pourquoi vous ne tirez pas une prune dans le citron d'un des deux autres, préventivement ?
Sauf, peut-être, porte-t-il le masque de l'insensibilité. Est-ce un masque, d'ailleurs ? Au fur et à mesure du film, cette figure prend de l'assurance et de la confiance. Les seules morales qui comptent, c'est d'une part l'argent, rien n'y résiste, son sigle et ses billets sont partout, et ne pas se faire prendre. Le fils est presque félicité d'avoir volé. Le père y retrouve son pouvoir et sa place prédominante de père. Plutôt que de punir ou de blâmer son fils, il lui montre les ficelles du mensonge et de la veulerie. Il va même jusqu'à vendre sa fille en lui demandant d'ouvrir la porte à sa place et de faire comme si elle venait de se réveiller. Elle monte l'escalier en petite culotte sous les regards excités des policiers. En haut, le père se couvre vaguement d'un peignoir et ne prend même pas la peine d'enlever le polo porté lors de la visite à son fils au commissariat. Personne ne voit rien, tout le monde est dupe. Les images d'Épinal de la famille idéale se fissurent au fur et à mesure du film. Et le dernier homme qu'il tue, son double, cet homme qu'il croit heureux, puisqu'ayant le travail et les responsabilités qu'il mérite, est en fait en plein burn-out. Sa femme l'a quitté et lui fait payer sa réussite. Il vogue d'histoire d'un soir en histoire d'un soir. Il fume et se saoule tous les soirs en mélangeant des alcools forts. Il ne faudra qu'une allumette pour déclencher sa mort. Une mort qui sonne aussi bien comme un meurtre que comme un suicide. Le voyeurisme et la perversité des informations télévisuelles sont dénoncés de manière violente, mais très réaliste, dans la scène où Daver découvre, à travers ce média, qu'il n'est pas responsable de la mort du couple qu'il a sauvagement et maladroitement tué. On apprend d'abord que l'accusé est le professeur et l'amant de la fille du couple assassiné. Le regard caméra de la jeune fille renverra plus tard à la montée des marches de la propre fille de Daver. Personne n'est vraiment choqué de voir des jeunes filles se vendre ainsi. De même, la réalité du crime que relate la télévision n'empêche absolument pas la famille de manger et d'enfourner les pâtes et de rire de l'horrible crime. Comme dans la réalité. Ensuite, les plans sur la télévision se resserrent au point que seul le grain de l'image nous fait comprendre que nous assistons au ridicule et tragique suicide de l'amant professeur en direct à la télévision. On notera que les crimes commis par Daver sont filmés de manière beaucoup plus distanciée et élégante, et en tout cas moins grossière et vulgaire que le suicide de l'amant professeur. Ici, le cadreur ne cherche qu'à saisir le réel, en direct, aussi obscène soit-il. L'obscénité des images d'actualité ne peut que déculpabiliser le véritable assassin qui se voit ainsi absous par le quatrième pouvoir. Cette fausse image de mort, en direct, renvoie aux véritables images des reportages montrés ou suggérés tous les jours, sans relâche, par les journalistes et accompagnés de commentaires et de voix off qui indiquent comment penser et voir. En quoi voir un homme tué est-il une information? Qu'est-ce que j'y apprends? Certainement pas l'empathie et encore moins une éducation morale et éthique. La mort est toujours irréelle. D'autres images sont obscènes dans le film et elles le parsèment de manière quasi subliminale comme le fait la publicité dans notre vie réelle. Partout, les mêmes images publicitaires sont scandées et répétées à l'infini. Daver, ce bon père de famille qu'on pourrait dire amoral, est renforcé dans ses crimes par les images qui l'entourent et l'envahissent. Et que voit-on? Que le pousse-t-on à désirer? Partout des corps morcelés, découpés, de femmes offertes et qui s'offrent dans des poses pornographiques. Ces images renvoient à la conduite des jeunes Lolita du film, dont les comportements amènent les hommes mûrs à se conduire en pédophiles. Dans le monde réel, la publicité nous agresse l'œil et montre très souvent une image dégradée et misogyne de la femme, présentée comme un objet de consommation qui fait vendre. Est-il nécessaire, pour vendre une glace, de montrer en gros plan une bouche peinte en rouge qu'il a suce en sortant sa langue? L'image est surchargée d'obscénité. Les fausses publicités du film dénoncent les violences sexuelles et morales qu'induisent les véritables images du corps des femmes exposées dans la rue. La femme de Daver n'est-elle pas elle-même particulièrement vide et sans conversation, au service de son homme pour lequel elle travaille, et fait les métiers de service subalterne à sa place, et tient la maison, aussi bien la décoration que la cuisine? Peut-être que si nous nous attachons à cet homme, c'est que tout le contraint, tout contribue à en faire un criminel joyeux et décomplexé. Le petit monde propret dans lequel il vit est en fait un monde dégoûtant, répugnant, où une seule loi compte, la loi du plus fort. S'il veut survivre, il doit se comporter comme un chef de tribu, qu'il évoque à regret à propos de son ancien travail, en mâle alpha.
Le cinéma, d'une certaine manière, je pense que tous les cinéastes le pensent, en tout cas moi je le pense profondément, n'est pas là pour donner des réponses. On n'a pas des réponses. On peut poser des questions. Comme je le dis souvent, le cinéma permet de démontrer ce qui ne se voit pas, ce qui est caché, que ce soit psychologiquement à l'intérieur de personnes, ou dans les familles, ou dans la société. Donc le cinéma, par ses moyens, qui sont assez étonnants d'ailleurs, parce qu'il y a une approche directe avec les hommes et les femmes, peut montrer ce qui ne se voit pas. Voilà.
La fin du film est très intéressante. En effet, cette fin semble ouverte. Une femme entre et vient rejoindre Davert. Que vient faire cette femme? Que veut-elle? Il semble l'attendre ou du moins la reconnaître et il la rejoint. Leur échange de regards est très mystérieux. À la suite du dernier crime, nous nous retrouvons face à cette chute. À l'évidence, Davert a réussi et il a pris la place de Machefer dans le groupe qu'il convoitait. On note qu'il déjeune à la même place que son prédécesseur et qu'il porte le même genre de veste, faussement décontractée, dans les tons beige pâle. On comprend ce mimétisme, il voulait dès le départ lui ressembler. On l'a su lors de la scène où il prend la décision de tuer et de le remplacer. En revanche, on ne comprend pas qu'il se soit soudain mis à fumer. Est-ce que cela signifie que sa femme l'a quitté et qu'il est dans le même état dépressif que Machefer avant sa mort ? État dépressif qu'il cherche à combler en allant à la rencontre de cette femme qu'il observe et est venue pour lui. En effet, nous spectateurs, savons que cette femme, avant de venir comme lui chasser, a écouté le DVD de présentation de l'entreprise Arcadia, qui occupe l'écran en arrière-plan, et a constitué un dossier sur lui. Comme il l'a fait au début du film, il a aussi écouté un DVD de présentation et ensuite constitué un dossier pour tuer, pour chasser ses concurrents. La lecture attentive du générique de fin nous apprend qu'il s'agit d'une prédatrice, ce qui rejoint l'idée qu'elle va chasser et prendre sa place à son tour. Le cycle recommence-t-il? Est-ce à son tour de subir le couperet? Pourquoi se jette-t-il dans la gueule du loup dès son arrivée? Est-il comme Machefer, trop lasse, fatigué du combat? Mais pourquoi, surtout, pourquoi le futur tueur serait-il une femme? On a vu combien les femmes sont méprisées par l'agent masculine dans le film. Une seule femme y possède le pouvoir, une DRH, qui ne le recrute pas et lui demande s'il pense pouvoir être en concurrence avec une femme. Cela ne lui semble pas envisageable. Est-ce pour cette raison qu'il ne fuit pas et n'imagine pas qu'il est la prochaine cible?
Alors, la fin c'est quoi la fin du film? C'est qu'à partir du moment où il y a un processus qui a commencé, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas.
Dans tous les cas de figure, malgré cette fin en forme de question, on peut affirmer que l'issue ne peut être que fatale. L'image du couperet qui tombe avant le générique vient le confirmer. Costa Gavras a été interviewé par mes élèves en 2019 à Premier Plan. C'était « Ma rencontre avec le couperet » de Costa Gavras.